Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 28e épisode de Torréfaction, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actu. Comme chaque semaine, je suis accompagné de CAF. Bonjour CAF.
Bonjour Fesquille.
Ça va bien cette semaine?
Écoute, impeccable.
Eh ben écoute, moi aussi.
Super. Voilà. Je sais que les gens n'ont pas l'habitude, mais
c'est ça.
De temps en temps, il faut que ça aille.
Des fois, ça va.
Voilà.
On va commencer notre petite rétrospective de l'actu tout de suite avec le gaming. Et on va parler de Star Citizen. Je sais que tu aimes bien en parler.
Oui, j'ai mis sur planning parce qu'il y a un moment où... on n'a même plus besoin de faire les vannes, ils les font sans nous.
C'est auto-parodique.
Alors, donc, qu'est-ce qu'ils ont inventé cette fois-ci? Ils vendent des lopins de terre virtuels sur des planètes qui n'existent pas, sur un jeu qui n'existe pas, où tu voles avec des vaisseaux qui n'existent pas. Donc, ça fait beaucoup de trucs, et des gens continuent à donner de l'argent. Parce que, reasons, comme disent les Américains. Non, là, j'avoue que je suis à court d'excuses pour ce genre de comportement. Je pense qu'il faut effectivement avoir des rêves dans la vie, mais il y a un moment, il faut quand même se détendre et réaliser qu'on se fait peut-être avoir. Et pourquoi j'insiste là-dessus? C'est parce que le coût des terres virtuelles vendues sur Star Citizen, sur ces fameuses planètes qui n'existent pas, pour que ça ait un intérêt et une valeur, il faudrait que le monde soit persistant, que ça soit un vrai mémo, ou en tout cas que ça essaye de le faire croire. Or, globalement, les serveurs ne vont pas gérer beaucoup de monde à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une idée de génie pour les mecs qui font Star Citizen, c'est Lucris, parce que Monsieur Robert, il va pouvoir vendre le même lopin de terre de 12 pixels à plein d'exemplaires, parce que en fait, tu ne pourras jamais être connecté au même endroit tout le temps. Donc, j'essaye d'être plus clair, mais en gros, il va exister plein d'itérations de chaque planète pour que les gens puissent se connecter, dans la mesure où, pour l'instant, le but, quand tout marchera, c'est quelques dizaines de joueurs par section en fait de jeu.
Que dalle, quoi.
Ce qui est que dalle, puisqu'en plus, je tiens à dire que eux-mêmes sont en train de faire un petit pas en arrière sur la notion de MMO du jeu, donc...
Bah oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Apparemment, maintenant, ils veulent expérimenter du côté du jeu en ligne, faire des espèces de casinos virtuels pour faire jouer les gens avec argent.
Il veut tout faire. En fait, il veut tout faire. C'est-à-dire qu'il ira bouffer à tous les râteliers et il n'y a plus de limite. Donc, c'est n'importe quoi. Je veux dire, le mec s'autorise tout, en vrai. Il raconte n'importe quoi. Il y a rien qui marche dans le jeu actuellement. Et le mec continue de rajouter des trucs, des idées. Ça part dans tous les sens. C'est une catastrophe. Et actuellement, donc, six ans après, on va dire, le développement, le lancement du projet, il n'y a toujours pas de vrai, ce qu'on appelle de gameplay loop établi, c'est-à-dire réellement une mécanique de gameplay, un truc que t'as envie de faire et de recommencer dans le jeu. Il y a quelques petits morceaux de trucs, genre oui, les combats spatiaux fonctionnent. Non, parce que pas vraiment en fait, puis il y a pas vraiment de but non plus.
C'est des trucs scriptés en plus. Enfin, c'est
non,
même pas.
Dans le jeu actuel, il y a des petites missions scriptées, mais vraiment genre très basiques. Mmh. Mais globalement, pour s'amuser dans le jeu, pour se dire il se passe un truc, il faut avoir beaucoup d'imagination et quelques potes et supporter les bugs, les reloads et tout ça. Mais ça, c'est encore, je veux dire, même si on parle pas de ça, c'est une catastrophe. C'est actuellement hallucinamment catastrophique. Et le coût de la vente de l'Open Terre, alors là, c'est...
magique. C'est juste magique.
Mais quand j'ai vu le truc, j'étais même pas surpris, tu vois. J'ai fait genre, ok. Mais comme on parle d'un truc qui te vend des vaisseaux JPEG à 1000 balles,
c'est ça,
qui ne sont pas implémentés, dont on ne sait rien, dont on n'a pas l'équilibrage, puisque de toute façon, les autres n'existent pas non plus. Ça ressemble plus à rien. Donc voilà, ça continue. Et tant que les gens paieront pour ce truc-là, ça va continuer. Et je suis désolé. Il y a un moment où, tu vois, il n'y a plus rien à dire. C'est un peu les mecs qui pensent que la Terre est plate. Pensez que la Terre est plate, les gars. Allez-y.
C'est ça. Démerdez-vous, on vous regarde.
C'est ça.
On va parler d'un truc qui nous énerve un peu moins, mais en vitesse. PUBG, on avait parlé la semaine dernière de la fameuse nouvelle map dans le désert, qui
exactement
s'appelle Désert pour le moment d'ailleurs, voilà.
Un nom poétique et voilà, plein d'imagination.
Elle va être montrée a priori pour la première fois dans une semaine, ça sera au Games Awards, le 7 décembre. Alors on vous oblige pas à mater le reste des awards, on vous conseillera jamais ça. Vous infligez pas ce truc, mais en revanche, ça veut dire que on va probablement pouvoir commencer à voir des vidéos dès le 7 décembre de cette fameuse map en action. Moi, je suis assez impatient de voir ce que ça va donner.
On a eu que des screenshots pour l'instant, en vidéo, je pense qu'on va découvrir que les combats de rue qu'on a vécu dans Yasnaya et compagnie dans la map actuelle, c'était de la petite bibine. Je pense qu'on va rester planqué dans des petits coins très très longtemps sur cette map.
Et puis tu voulais reparler en vitesse de PUBG sur mobile.
Oui, alors j'ai fait une petite news qui vous explique l'espèce de Far West incroyable qu'est le jeu de survival sur toutes les plateformes mobiles. Je vous conseille de jouer à ces jeux sur tablette, particulièrement sur iPad, parce que c'est un des trucs les plus puissants que vous puissiez avoir. C'est hallucinant parce que donc les gens de chez Tencent, le géant chinois du jeu vidéo, vient d'annoncer qu'ils allaient porter PUBG sur mobile. Donc ça, très bien, c'est fait, merci, Blue Hole est très content. Mais il existe déjà une tonne de jeux du genre, et je m'en étais pas rendu compte avant de commencer à creuser. J'en connaissais un, en fait, il y en a plus d'une dizaine, si on compte les trucs un peu momoches. Je vous ai fait une petite liste dans la news qui est disponible sur Geekzone, vous connaissez les règles, vous avez un petit lien sur le texte qui accompagne ce podcast, et vous pouvez aller voir. Je vous conseille d'essayer un truc genre Survivor Royale ou Rules of Survival, qui sont faits par la même boîte. Parce que, voilà, ils en font trois, en fait. Hein. Donc, vous pouvez tous les tester, vous verrez bien. Et la qualité est pas si nulle que ça. J'ai même vécu des moments assez rigolos parce que les gens ne savent pas que quand tu double tapes sur ton écran, tu te retournes automatiquement, par exemple, dans Rules of Survival. Donc,
d'accord.
Ce qui est assez pratique. Mais moi, je me suis mis derrière un escalier et j'avais tué un mec par hasard. Il était en haut des escaliers. Donc, sa caisse, c'est une espèce de petit truc bleu qui est visible de très loin et qui tourne. Et les gens se disent, ouah, free loot, je vais aller voir ce qu'il y a. Donc j'ai tué 5 mecs autour de cette pièce, puisque moi j'étais planqué de l'autre côté de l'escalier, et aucun mec ne s'est retourné, ce qui m'a fait beaucoup rire. Donc voilà, on peut vivre des moments rigolos, les bagnoles sont inconduisibles pour l'instant, évidemment il y a des bugs dans tous les sens, parce que c'est en bêta. Mais tester ça, franchement, c'est surprenant. On pourrait se dire, ça va être tout pourri.
Bah ouais.
Mais en fait, il y a des trucs qui sont plutôt rigolos. Donc voilà. Et puis, si vous êtes loin de votre PC, vous êtes coincé chez votre mamie avec juste une tablette, ça peut vous sauver.
Du PUBG partout, alors.
Exactement.
On va passer du côté des apps avec un titre qui vend du rêve. Je lis ça sur la conduite. La reine de la productivité pour iOS, Gladys.
J'adore, parce qu'en fait, ça s'appelle Gladys. Gladys, l'icône en plus, c'est une espèce de secrétaire stylisée avec des lunettes et un chignon, quoi. Et là, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Petite explication rapide. Depuis iOS 11, particulièrement sur iPad, on a le drag and drop. Ok, donc ça, c'est vachement bien, le drag and drop. Mais c'est pas très pratique quand t'es en full screen. Heureusement, on a le split screen sur iPad. Mais parfois, je sais pas, par exemple, tu es journaliste, par exemple, tu as des articles à faire et tu as plein de liens, plein de morceaux de texte que tu voudrais mettre de côté pour pouvoir les utiliser dans un article où tu fais des recherches. Hein. Je prends un exemple simple parce que je le connais bien. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu mets Gladys sur le côté dans ton écran partagé. Tu mets par exemple Safari de l'autre côté ou un éditeur de texte après. Et tu drag and drop tout ce que tu veux, des images, des liens, des bouts de texte, n'importe quoi, dans ce truc qui est en fait une étagère virtuelle.
C'est un gros presse-papier, parce qu'en fait, c'est...
Alors, en fait, c'est entre le presse-papier et l'étagère. Bon, ce qu'on va parler des presse-papiers tout
à
l'heure.
Oui, c'est pour ça que j'y pensais, ouais.
Je vous spoil, et c'est aussi pour ça que je voulais vous parler de Gladys, parce qu'on a une petite thématique vite fait sur les apps cette semaine. Mais du coup, pourquoi c'est intéressant? Parce que ce truc-là va interpréter bien mieux que n'importe quel presse-papier les liens qu'on lui envoie, et va permettre de les réexporter de différentes manières. Donc ça va permettre de par exemple prendre du texte sur un site web, si tu veux garder les liens parce que tu veux récupérer le HTML, etc. Ouais. Ça peut te le convertir directement en Markdown, par exemple.
D'accord.
Et il y a plein de trucs comme ça que Gladys sait faire qui sont hyper impressionnants. Le truc fonctionne très 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 bien. La deuxième bonne nouvelle, c'est que c'est gratuit, donc pour une utilisation, on va dire, normal. Et la version payante, c'est un achat in-app qui va vous coûter la somme faramineuse de 1 euro et quelques.
Mon Dieu.
Donc, qui permet d'avoir un nombre illimité d'items dans votre étagère virtuelle. Si vous vous êtes déjà trouvé face à ce problème de pouvoir jongler avec les différents éléments sur iOS, allez jeter un œil sur ce truc-là. Il en existe plusieurs. En anglais, on appelle ça les shelves, les étagères, quoi. Et c'est ultra pratique. Quand on y prend goût, ça marche vraiment très, très bien.
Bon, on va rester un peu dans le même genre d'utilitaire, en fait, avec Clipboard Fusion, dont j'ai parlé cette semaine. Alors, j'en ai parlé parce que je me suis rendu compte que j'en avais jamais parlé et que c'est un truc que j'utilise quand même plutôt souvent. Et au hasard du calendrier, la version 5.2 est sortie une quinzaine de jours, donc on n'est pas trop trop mal raccord quand même. C'est développé par les gens de Binary Fortress, qui sont les mêmes gars qu'on retrouve derrière l'excellent Display Fusion, dont j'avais déjà parlé sur Geekzone, qui est un truc pour gérer les multi-écrans. Et c'est donc un super presse-papier. Donc, c'est un peu le même principe, hein, c'est-à-dire que tu vas aller te balader sur le net, tu vas collecter des infos pour tes papiers, que ce soit des infos texte, des images, des trucs comme ça, et tu balances tout en fait en simplement faisant un copier. Ça va automatiquement le balancer dans une liste que tu peux aller par la suite éditer, évidemment, récupérer toutes tes infos. Et il y a aussi tout un système autour de nettoyage, hein. Donc quand tu copies des chaînes, en fait, tu peux lui dire de virer tous les formatages, par exemple HTML, ce genre de trucs-là, ou au contraire de les conserver, ou au contraire de les convertir. T'as tout un système de script derrière que tu peux créer, ou que tu peux utiliser ceux qui sont intégrés dans le soft pour te permettre justement d'automatiser toutes ces tâches de conversion, donc convertir du code HTML en Markdown, etc. Donc ce genre de process qu'on fait nous tous les jours au quotidien quand on bosse sur un papier pour Geekzone, par exemple, bah voilà, on peut le faire automatiquement avec ce soft-là. Il est disponible lui aussi en version gratos qui est relativement complète. Il y a une version payante dont le prix m'échappait tout de suite, mais qui est pas très très cher, c'est dans le papier de toute façon, et qui offre des options un peu plus fines, notamment au niveau de la gestion de ses macros, et la possibilité aussi pour ceux que ça intéresse de synchroniser du coup son presse-papier sur toutes ses machines, y compris les devices mobiles, etc. Donc ça c'est plutôt cool aussi, et ça c'est uniquement dans la version payante. Donc voilà, Clipboard Fusion, j'ai fait un petit papier dessus cette semaine sur Geekzone, si vous voulez jeter un coup d'œil. On reste dans le copier-coller avec Copied,
voilà, il y a des mecs qui se prennent pas la tête pour faire, pour
trouver. Mais souvent sur Mike, hein, j'ai remarqué que les noms de soft étaient quand même relativement explicatifs.
Mais ils sont moins dans le nom un peu hardcore customisé avec les ailerons à l'arrière, tu vois. Donc des fois, ils veulent faire des trucs un peu plus.
WinCopy 2000.
C'est ça. Ils ont arrêté sur Mac de faire des trucs comme ça. Je précise juste un truc sur Clipboard Fusion, c'est qu'il existe des versions Mac et il existe en fait une synchro qui permet d'exporter son clipboard sur plein de devices différents. Le problème, c'est que ça passe par leur propre serveur et que le soft est quand même ultra moche. Oui. Parce que les mecs sont, bah, si vous utilisez les autres softs de Binary Fortress Software, bah, vous savez que c'est pas les rois du design. Et les mecs, ils font des efforts, mais c'est pas génial. Alors, Copied, ça a beaucoup plus de gueule déjà, et c'est le même système, mais uniquement dans l'environnement Apple.
Comment tu casses mon soft là?
Bah, ouais, je suis désolé. En fait, ça fait exactement la même chose, mais bien
mais en plus joli.
Alors, non, en plus joli et en moins. Comment dirais-je, les gens un peu stressés par les serveurs, le cloud, tout ça, sont plus rassurés parce que Clipboard Fusion, pour faire l'export et la synchro entre les différents devices, ils utilisent leur propre serveur. Donc, on voit tout le temps tous tes propres trucs là-bas et on ne sait pas trop comment ça marche. Genre, par exemple, OnePassword, est-ce qu'il sait faire la différence entre OnePassword et pas? Est-ce qu'il récupère pas toutes tes infos? Et est-ce que ça part pas dans la nature? Donc, je ne connais pas très bien le soft, donc je ne m'avancerai pas. Mais sur Copied, par exemple, il sait faire le tri et du coup, il y a des trucs qui te fait non, ça, j'en veux pas. Ça je le vois pas, hop, je me cache les yeux, je l'envoie nulle part. De toute façon, si ça part, ça va où? Ça va sur iCloud ou ça sera crypté. Chiffré, pardon, désolé. Donc du coup, tu vas te retrouver avec un truc qui est quand même plus secure, mais malheureusement qui ne fonctionne que entre macOS, iOS, etc. Mais alors moi, j'utilise ça sans arrêt parce que c'est ultra pratique pour mettre des liens de côté. Genre, tu peux en synchroniser un nombre que tu définis, 50, 100, 150, etc. Et ça me sert aussi pour prendre des notes quand je veux les exporter sur mon Mac plus tard. Là, je vais pas utiliser ma copine Gladys. Je vais utiliser Copied qui va me permettre, en fait je peux l'avoir dans les deux, on s'en fout, mais ça me permet d'avoir tout sur le on the side, sur le côté, je peux tout mettre de côté pendant que je suis en train de regarder par exemple des flux RSS en me disant tiens, j'ai envie de parler de ça, bim, je le copie. Et en plus, la visualisation est vachement sympa, c'est-à-dire que tu vas voir directement les images, etc., que tu as copiées. C'est hyper pratique pour bosser et tu récupères tout sur ton Mac directement, en fait. Hein, c'est synchronisé automatiquement. C'est pas cher du tout et c'est ultra suivi, c'est-à-dire qu'il y a des updates très régulièrement pour iOS et macOS. Le mec est extrêmement réactif. Donc voilà, c'est bon. Il y en a plein, encore une fois, des softs qui permettent de faire ça. Il y en a un qui est très joli, très connu, qui s'appelle Paste. Mm-hmm. Encore un nom super simple.
On se fait pas chier. T'as fait copie, je vais faire paste alors.
Exactement. Le mec, attends, je prends l'autre. Et t'as une espèce de barre en bas de l'écran qui vient te résumer un peu tous les trucs que t'as copiés et te dire, tiens, c'est des jeux, tu sais, tout a une mise en forme hyper chiadée pour te dire si c'est une URL, etc. Les dernières versions de Copied sont un peu moins moche, mais pas aussi joli que ça, mais moi je le trouve beaucoup plus efficace, beaucoup plus pratique à utiliser. Donc voilà, vous pouvez aller jeter un œil là-dessus, c'est nos petits tips de la semaine.
On va changer complètement de registre. Je voulais vous parler de VCV Rack. C'est un synthé modulaire virtuel. Voilà. C'est un synthé modulaire virtuel dont on a parlé tout à l'heure sur Discord. Alors, on va bientôt pouvoir lancer une rubrique les bons plans Discord. Déjà que c'était la semaine dernière, je crois, on avait récupéré des infos.
Enfin, bref.
Donc, c'est un synthé modulaire. C'est quoi un synthé modulaire? C'est un synthé composé de modules, comme son nom l'indique. Donc, en gros, on a un kit de départ qu'on peut moduler comme on le sent, avec des oscillateurs, un séquenceur, un mixeur, un delay, des faux, des filtres dans tous les sens. On imbrique ça comme on le veut, en fait, pour faire son propre synthétiseur, en quelque sorte. Et là, il a l'avantage d'être open source et gratuit, livré avec un kit de modules de départ qui comprend tous les trucs de base pour avoir un synthé modulaire fonctionnel. Et puis, on peut acquérir des packs supplémentaires. Il y en a certains qui sont gratuits. Il y en a un qui est payant, le Pulse Matrix. Sinon, pour le reste, on peut récupérer des synthés granulaires, des oscillateurs à forme d'onde et plein de portages de matos hardware connus, donc des circuits qui ont été transformés en algorithmes. C'est du VST, c'est dispo pour macOS, Windows et Linux. T'as vu, j'ai du macOS, j'ai pas du iOS X.
C'est bien.
Voilà. Et donc, c'est du VST, c'est gratuit et on vous filera un lien dans la news qui va avec ce podcast.
C'est super joli. Là, je suis sur le site. Ouais. Je ne fais pas de musique, mais j'ai déjà envie de tourner tous les boutons.
Alors, pour le coup, c'est même sans faire de musique, ça peut être rigolo juste pour produire des sons, en fait. Tu branches les différents trucs, c'est un peu comme un kit, tu sais, les petits kits électriciens quand on était gamin.
Me dis pas ça, je suis capable de paumer des heures là-dessus, j'ai acheté des apps sur mon iPad qui ne servent qu'à ça, quoi.
Et voilà. on va terminer cette section apps avec une bonne nouvelle du côté de Vivaldi.
Yes, qui a rajouté enfin la synchronisation dans sa version bêta. Alors attention, hein, c'est donc pas sur la version release, il faut aller récupérer les snapshots de Vivaldi, comme ils appellent ça sur leur site web, et c'est très bêta, c'est-à-dire que ça marche quand ça a le temps. Ouais. Hier à la sortie, je vous cache pas qu'on a fait exploser en vol leur serveur de synchronisation, mais là aujourd'hui ça s'est un peu calmé, ça fonctionne pas mal, ça permet de synchroniser tous les trucs de base, c'est-à-dire les bookmarks, les notes, extensions. Les extensions, etc. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, il y a des choses qui coincent un peu, genre mon Vivaldi Windows et mon Vivaldi macOS sont pas du tout d'accord sur la version de l'extension 1Password à utiliser. Donc j'ai une espèce de petit bug, mais tout le monde est super réactif et en plus les mecs de 1Password sont des gros fans de Vivaldi. Donc ça va être corrigé très vite. En attendant, vous pouvez utiliser 1Password X qui, même s'il ne marche pas complètement, fonctionne très bien. Moi, sur la version Mac, en tout cas, ça m'a permis de contourner le problème. Et on va suivre ça de très très près. Mais entre Firefox Quantum, celui-là, Vivaldi donc, et les derniers Opera qui sont très très sympas, je pense que Chrome a enfin de la concurrence, c'est une bonne nouvelle.
Ce que j'allais dire, en fait, c'est l'arrivée du nouveau Firefox qui leur a mis un petit coup de pression pour enfin sortir cette synchro.
Je pense que non, ça faisait très très longtemps qu'ils étaient en train de bosser dessus. C'est hyper complexe. Alors malheureusement, ils synchronisent pas les trucs très lourds, genre les screenshots, qui sont gérés localement uniquement pour l'instant. Et je pense que ça restera le cas parce que ça va leur coûter une fortune à gérer.
C'est clair.
C'est un truc qu'ils ont fait qui est très complet. Quand on va voir tout ce qui synchronise et comment ça fonctionne, c'est très bien pensé. C'est basé sur les travaux de Chromium. Donc des trucs de Google, mais qu'ils ont entièrement refait à leur sauce pour faire exactement ce qu'ils voulaient. Mmh. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Je vous cache pas que de temps en temps, il y a la synchro qui saute, elle se fait pas exactement, mais comme je le disais tout à l'heure, c'est en bêta, il faut leur laisser le temps, la peinture est pas sèche, c'est la première version. Mais ils arrivent dans la cour des grands, maintenant il leur manque plus qu'une version mobile et ils pourront aller concurrencer Firefox et Chrome sans avoir l'air ridicule.
Voilà, on vous filera le lien pour télécharger cette bêta, bien évidemment, dans le petit papier qui accompagne ce podcast. On va parler culture avec tout d'abord Infinity War. Ça y est, le trailer est enfin sorti, wouhou. Alors non, je dis wouhou parce qu'en fait c'est vrai qu'il s'est fait un peu attendre depuis la présentation D23 Expo, qui est donc espèce de gros E3 de Disney en fait, pour le fan club, où ils présentent en général des extraits de nouveaux films aux actionnaires. Ils avaient présenté une sorte de premier trailer d'Infinity War qui avait vaguement leaké, qu'on pouvait mater sur Pornhub, comme quoi c'est là maintenant en fait que vont tous les trucs un peu bootleg pour se planquer, parce qu'ils se font systématiquement choper sur YouTube, donc on les retrouve sur Pornhub. Voilà, c'est bon à savoir si vous cherchez un jour un trailer, c'est là-bas qu'il faut aller. Bref, depuis on l'attendait, les frères Rousseau qui réalisent le film avaient à l'époque promis ça arrive très bientôt, et bon, c'était il y a 4 mois, donc ça commençait à faire un peu long, surtout qu'en plus ils en ont bien profité entre temps pour troller un peu tout le monde sur leur compte Facebook. Notamment, il y a cette merveilleuse vidéo d'Orson Welles qui où le titre de la vidéo c'est concernant vos demandes pour le trailer d'Infinity War, et en gros la vidéo d'Orson Welles c'est une pub pour du vin qui se termine par We will sell no wine before it's time.
We will sell no wine before it's time.
Et elle est fantastique, cette vidéo, si vous n'avez jamais eu l'occasion de la voir. Bref, ils ont trollé un peu tout le monde, et puis finalement, ils ont lancé une sorte de compte à rebours un peu bizarre il y a 3 jours, donc on s'est douté que ça voulait annoncer quelque chose, et voilà, donc le trailer est sorti, on peut le voir sur le compte YouTube officiel de Marvel. On y reviendra, bien évidemment, dans les longueurs, dans le prochain épisode des Clairvoyants, la semaine prochaine.
Fanboys, fanboys.
Voilà. Et on rappelle que le film est très attendu et sort le 25 avril 2018 chez nous, soit 10 jours avant les US. Nah.
Ouais, ça va être un bordel.
Oui, je te confirme. du côté de la télé, une mauvaise nouvelle pour les fans d'American Gods, puisque la série vient de perdre ses deux showrunners, donc Brian Fuller et Michael Green. Brian Fuller, c'est un peu un abonné des séries annulées d'habitude, puisqu'il avait bossé sur Pushing Daisies, Dead Like Me, Hannibal, qui ont toutes été annulées, donc peut-être qu'il a voulu se barrer avant qu'elles soient annulées.
C'est un chat noir, le mec.
C'est ça. Là, c'est a priori donc problème de sous. En fait, Fuller voulait plus de sous pour la saison 2 et le network lui a dit non. Et il y avait apparemment aussi des divergences du côté créatif. Donc du coup, il a préféré se barrer. Il va aller bosser, comme on l'avait déjà dit dans Torréfaction, sur le reboot d'Amazing Stories. Et puis bah, ouais. Voilà, pour ceux qui espéraient que on puisse garder la patte si particulière de Brian Fuller dans la saison 2, je pense que c'est mal barré. Je pense qu'il va y avoir un petit recadrage. Alors moi, j'ai vu que le pilote pour le moment, je peux pas vous
en dire
plus.
Moi, j'ai tout vu, moi.
Et ça avait l'air quand même bien barré.
Bah en fait, le problème, c'est qu'il y a des épisodes qui partent très très loin dans la stratosphère, qui n'ont rien à voir avec le enfin, qui n'ont rien à voir. Oui, ils font plaisir, les mecs. Donc j'imagine que le network voulait un truc un peu plus carré et dire, mais dis donc, à un moment, t'as dit American, t'as dit God, quand est-ce que ça se tape? Et là, effectivement, quand on regarde la première saison, c'était pas d'une évidence folle. Après, c'est extrêmement bien réalisé, j'ai trouvé ça pas désagréable du tout à regarder, mais j'avoue que si ça peut avancer un poil plus vite, ça sera pas plus mal.
Ouais, c'est ce qu'on reproche souvent à Brian Fuller, hein, d'être parfois un peu contemplatif de son propre art, on va dire. Il avait déjà fait le coup dans Hannibal avec des épisodes quand même très très longs où, oui, ça va, on a compris que t'as mêlé tous les trucs un peu visuels et tout, c'est cool, mais on voudrait un peu d'histoire.
C'est ça.
Bref, American Gods, donc, bah, on va suivre quand même malgré tout. Ça veut pas dire que la série va se casser la gueule, mais c'était quand même une news assez importante, donc je voulais en parler. On va passer du côté de la tech, et plus particulièrement d'un sale bug sur macOS en ce moment.
Oh, c'était rigolo, ça, cette semaine, chez Apple, c'était le feu. C'était, oh, dis donc.
Everything is fine.
C'est ça. Vous connaissez tous cette petite image. Et ben là, c'est pareil. Le petit chien, il était dans son salon, ça flambait tout autour et bah, tout va bien. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On rappelle vite fait. Déjà, on a découvert qu'il y a un petit bug. Il y avait, en tout cas, parce qu'il avait tout corrigé, évidemment, tout petit bug. On pouvait se connecter sur n'importe quelle session de macOS 10, le dernier, tout patché, tout propre, avec un mot de passe root. Enfin, en fait, avec le compte admin root, mais sans mot de passe. Donc, effectivement, ça fait un peu désordre. Donc, en gros, bah, t'étais bloqué, t'arrivais pas à te connecter, tu tapais root dans la ligne, dans la fenêtre de login, tu mettais pas de mot de passe et tu cliquais plein de fois sur OK, puis au bout d'un moment ça passait. Donc il y a plein de gens qui font, ah, ils ont pas mis de mot de passe et tout. Non, alors c'était pas ça en fait. On sait pourquoi ça déconnait, c'était un bug dans la logique d'analyse du mot de passe, etc., qui était bah, on sait pas ce qui s'est passé, mais il y a une explication sur le site d'Apple et sur un autre site de tech. Moi, j'ai bien rigolé, je l'ai lu en travers, j'ai fait whatever. Parce que les mecs, vous êtes quand même ridicules dans l'histoire. Donc ils ont patché le truc en se disant, ouf, voilà, en 24 heures ça a été fait. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça existe et il y a des mentions de ce bug depuis quelques semaines sur les forums de support. Donc Apple les a absolument pas vus et ça a sauvé la vie en fait de mecs qui étaient bloqués genre sur des machines où ils avaient oublié leur mot de passe.
Bah oui.
Et ils utilisaient ce truc-là pour pouvoir refaire leur compte correctement. Ouais. Donc je trouve ça assez drôle. Mais du coup, c'était connu et ça a pas du tout été exploité. En tout cas, on n'a pas vu d'exploit. Ça a pas fait la une des journaux avant il y a deux jours. Donc globalement, c'est resté quand même assez discret. Mais en corrigeant ce truc-là, bah, ils ont repété un autre truc. Bah oui, parce que c'est comme
on
ça.
On dirait moins quand je bricole.
C'est ça. Tu sais, tu sors un patch en 24 heures, tu testes pas et tout. Donc, j'ai fait une petite news sur Geekzone à propos de celui-là, parce que j'avais pas parlé du premier, j'avais pas eu le temps. Et là, en fait, ça cassait sur chez, pas chez tout le monde en plus, sinon c'est trop facile, bah, tu comprends. Tu pétais le sharing le partage de fichiers, pardon. Donc, pour pouvoir récupérer tes données sur un autre Mac, faire du partage de fichiers, il n'arrivait plus à te connecter, tout bêtement. Il y a juste une commande à mettre dans le terminal pour corriger ce truc-là. Mais bon, bah voilà, ça fait pas très très propre. Ça fait un peu deux fois de suite, les mecs. Donc, je pense que là, maintenant, ils vont changer deux, trois trucs. Ils l'ont annoncé dans le communiqué de presse qui faisait le mea culpa sur ce bug immonde, en disant nous allons faire en sorte de ne plus jamais avoir ce truc là, il va y avoir des nouveaux process. Le process magique. Et je pense qu'effectivement il est temps, parce que ça, c'est quand même assez moche. Et d'une manière générale, il y a des trucs pas très très propres depuis les sorties d'iOS 11 et du dernier macOS à Sierra. Ça queen pas mal dans les chaumières, donc bon, j'ai envie de dire c'est un classique à chaque fois que des grosses nouvelles versions sortent. Mais bah, je pense que vu la taille de la boîte, ils peuvent mieux faire.
Un petit peu de laisser aller du côté de chez Apple.
On va me dire, oui, vous êtes un con, vous allez jeter ça. Oui, je le jette, parce que ça, c'est honteux, ça. C'est de la merde.
Et histoire de distribuer des baffes de manière équitable, on va taper sur Android dans le rant.
Ouais, alors, Android, Ah, ça faisait longtemps que j'en avais pas dit du mal.
Là, t'as le poil de plein d'utilisateurs qui se hérissent soudainement.
Et ouais, les mecs. Alors, aujourd'hui, pourquoi le coup de gueule sur Android? Mais alors, c'est pas un coup de gueule pour vous dire Android, c'est de la merde. C'est un coup de gueule sur, dis donc Google, c'est cool d'ouvrir ton OS et de faire un truc open source, dans certaines mesures, hein, parce que ça devient de moins en moins vrai, le côté open source. Mais bref, c'est pas là-dessus que j'ai envie de taper en ce moment. C'est plutôt sur la façon dont est géré Android avec leurs petits partenaires, leurs amis, les constructeurs, qu'ils soient coréens, chinois et compagnie. Parce que là, j'en ai configuré plusieurs de suite en 15 jours et ça m'en rend mais ma boule. Un truc très simple. On parle de smartphones qui sont dans les mains d'utilisateurs qui n'écoutent pas Torréfaction, qui n'lisent pas Geekzone et qui ne savent pas ce que c'est qu'un site web de tech en général. Eux, ils veulent un truc qui fonctionne et qui soit hyper simple. Et ces gens ne savent même pas configurer leurs contacts correctement. Donc, ça veut dire quoi quand je dis configurer les contacts? C'est qu'ils changent de téléphone, ils viennent de se faire voler, etc. Ils se disent, oh, Caféine, est-ce que tu peux me sauver et réinstaller mes contacts? Parce que je ne sais pas comment c'est synchronisé. Bah, ça tombe bien, moi non plus. T'avais quoi comme téléphone? Un Samsung, par exemple. Ah, et ben là, t'as utilisé l'app Samsung, bah ça se synchronise pas bien tout le temps parce que tu l'as pas paramétré correctement, par exemple. Et tu t'aperçois, quand tu installes un truc Android, que cette foison de surcouches et d'applications que tu vas retrouver chez Honor, Huawei et compagnie, eh ben ne se synchronise pas avec les services Google, ou en tout cas pas correctement. Et quand tu veux réinstaller un téléphone, eh ben c'est la merde, parce que tu sais pas ce que la personne elle avait avant. Donc, mais j'ai plus mes SMS? Bah non. Ah, mais j'ai plus mes mails? Bah si, mais tu utilisais quoi avant? Bah j'en sais rien, j'avais une application mail et puis elle était bleue.
C'est ça. Vas-y, démerde-toi.
Non, tu vois, t'es vraiment, vraiment pas bien. Donc du coup, j'ai découvert des trucs géniaux comme le Huawei ID que tu vas avoir sur un téléphone Honor et qui essaye vraiment de s'imposer à toi. Et tu découvres qu'effectivement, tu ne peux pas désinstaller ces applications, alors que maintenant, je tiens à dire que sur iPhone, on peut virer par exemple l'application mail de base si on n'a pas envie d'utiliser. Mais chez Huawei, eh ben, tu peux pas. Il y a 2-3 utilisateurs d'Android avec qui j'ai envie d'avoir une nouvelle conversation rapport au fait que Apple vous tord le bras. C'est de moins en moins vrai, c'est de plus en plus vrai de l'autre côté. Donc faites attention, mettez bien toutes ces applications de côté, réinstallez et apprenez à aller chercher les applications Google officielles en fait. Puisque c'est quand même le plus simple quand on passe sur Android, bah autant assumer à fond hein, et puis aller voir notre ami Google et lui refiler toutes vos données, parce que au moins quand vous perdez votre téléphone, vous saurez où elles sont.
Voilà, et puis ça vous évitera de poster sur Facebook j'ai perdu mon téléphone, renvoyez-moi votre numéro.
Ah oui, ça j'adore aussi.
C'est un grand classique.
En 2017, les gens ne savent pas sauvegarder un putain de contact quoi. Donc je trouve ça magique. Donc voilà, vous avez tous les outils, mais maintenant il faut quand même savoir les utiliser. Et moi, je suis halluciné de la complexité finalement d'Android parce qu'on veut absolument vous refourguer les applications du constructeur, que ça soit l'agenda, les contacts, la gestion des SMS, etc. Donc apprenez à faire votre marché et puis surtout éduquez les gens autour de vous. Si vous voyez des potes qui se sont dit « Ah, j'ai acheté un super téléphone au Black Friday à 250 balles », bah très bien, mais quand tu vas le perdre ou le casser ou qu'il va avoir un problème, ça serait pas mal que tu viennes pas m'emmerder pendant 2 heures.
Et c'est la fin de ce 28e épisode de Torréfaction. Je voulais vous rappeler au passage que le nouvel épisode des Démons du Midi est sorti mercredi.
Yeah.
Donc, si vous voulez nous aider à propager la bonne parole, n'hésitez pas donc à faire tourner sur vos réseaux sociaux, chez vos potes, dans votre famille. Et puis on peut aussi venir nous soutenir si on veut, via le Patreon.
Il faut, vous avez l'adresse, vous avez un gros bouton sur Geekzone et vous pouvez directement cliquer donner. Pour ceux qui ne veulent pas s'abonner, il y a un PayPal. Vous pouvez aussi vous abonner via PayPal. Mais si jamais on décide de mettre en place des fonctionnalités tierces auxquelles on réfléchit, ça fonctionnera certainement que avec Patreon, je préfère vous prévenir. Mais bon, ce n'est pas à l'ordre du jour, vous avez le temps et on vous préviendra avant, évidemment.
Voilà,
et
puis nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Torréfaction. D'ici là, passez un bon week-end. Ciao, Caf.
Ciao, Fasquine.
Un podcast signé Fasquine. Fasquine.com.
Est-ce qu'un jour on remplacera nos repas par de la poudre? Qu'est-ce qu'il se passe dans nos têtes quand on rêve? Partir en vacances sur une exoplanète, c'est pour bientôt? Les réponses à ces questions et bien d'autres, c'est dans Ramène ta science, le nouveau podcast scientifique de Geekzone. Avec Dr Saucisse, l'ami Bini et Fasquille aux commandes, on vous parle de sujets peu connus, de sujets mal connus ou de sujets qui trimballent leur lot d'idées reçues en décryptant leur impact sur notre quotidien. Ramène ta science, RTS, c'est votre nouveau rendez-vous scientifique et c'est sur geekzone.fr.